voix nue. Cette semaine, Jean-Christophe Brianchon rencontre Claude Zidi. Ce soir, un cinéma populaire au service des stars.
Claude Zidi, bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir, nous entamons notre troisième entretien autour de votre œuvre. Et après avoir envisagé ensemble de façon chronologique les 20 premières années de votre carrière au travers de votre travail de technicien du cinéma aussi bien que de celui de jeune réalisateur, nous allons désormais aborder votre filmographie sous l'angle d'un thème qui vous est cher, me semble-t-il, celui du cinéma populaire. Comme vous me l'avez dit un jour, vous envisagez votre métier d'une façon assez claire, un désir de faire des films pour qu'ils soient vus. Le moins qu'on puisse dire, c'est donc que c'est une réussite, puisque vos trois premiers films cumulent déjà plus de 15 millions d'entrées à eux seuls. Une réussite qui attise la haine de quelques chapelles, comme celle des critiques défenseurs d'un cinéma d'auteur, mais qui vous amène surtout beaucoup d'amis. En 1974 et en seulement trois films, votre notoriété n'est plus à faire. Et le trio que vous formez alors avec Christian Fechner et Claude Berry, vos producteurs, fait envie à beaucoup de distributeurs à une époque où l'essor de la télévision fait peur à certains cinéastes, producteurs et distributeurs que le cinéma périclite. Concrètement, donc à la mi-temps de ces années 70, vous nous l'avez rapidement dit dans l'épisode précédent, mais qu'est-ce que ce succès vous apporte? Est-ce que ça vous apporte de la liberté?
Oui, fallait. Oui, c'est une certaine, peut-être pas liberté, mais facilité. Oui, enfin liberté. Oui. Liberté aussi d'écrire, de développer une idée, comme ça. Il y a une forme de confiance qui s'installe et bon, quand vous arrivez avec l'idée d'un film, bon, on vous écoute et puis on vous dit fais-le. Voilà, on le produit. Donc après, évidemment, faut développer l'idée, faut la travailler, et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de liberté. Oui.
Une liberté de vous vis-à-vis de vous-même, une liberté intellectuelle.
Oui, moi-même. Voilà, c'est une liberté. Des fois, ça, c'est un peu. Vous pouvez partir dans beaucoup de directions. On vous dit pas faites ci ou faites ça, non. C'est à vous de trouver l'idée à développer.
Et puis bon, le cinéma est aussi une industrie. Alors les spectateurs amènent de l'argent. L'argent vous permet peut-être aussi, ou permet à vos producteurs de faire des films qui coûtent plus cher avec des gens plus célèbres, entre autres des comédiens qui, comme vous le disiez rapidement, ont voulu tourner pour vous.
Oui, j'ai fait 4 films avec les Charlots qui n'ont pas, ils ont tous très bien marché et ils n'ont pas coûté, c'était pas des films très chers à fabriquer. On tournait quasiment en extérieur, au maximum 8 semaines, vous voyez. Donc c'était des films d'une économie tout à fait normale. Ce n'était pas des super productions. Mm-hmm. Au contraire, le principe, c'était un peu de se débrouiller, justement. C'était de faire avec ce qu'on avait. On tournait, par exemple, les Fous du Stade. On s'est installé dans un petit village près d'Avignon qui s'appelait Gravezon. Et ça a été le décor du film. Et souvent, les acteurs, on les prenait dans les habitants du village, vous voyez. Voilà. Donc, il n'y avait pas besoin de construire des décors énormes. On tournait chez les gens, on tournait dans la rue. C'était des films d'extérieur, beaucoup. Hein. Voilà.
Alors, vous faites jouer les habitants des villages dans lesquels vous passez avec les Charlots, mais par la suite pas que, parce que vous allez aussi être le cinéaste des plus grandes célébrités des années 70-80.
Oui, alors bon, j'ai tourné, c'est un vieux sujet que j'avais envie de développer, qui est devenu La Moutarde me montonnait, avec Pierre Richard et Jane Birkin, entre autres.
Alors vous nous voilà. Disiez qu'à l'origine, c'était dans votre tête avec Belmondo et Brigitte Bardot.
Oui, voilà.
Ça s'est pas fait.
Ils n'ont jamais tourné ensemble.
Ils n'ont jamais voulu? Vous avez essayé, ça n'a pas pu marcher?
Non, je n'ai même pas essayé, non. D'ailleurs, je me demande à l'époque si Brigitte Bardot n'avait pas arrêté de faire du cinéma. Vous voyez, c'est
à peu près concomitant.
Oui, hein, je crois. Oui, c'est... Non, j'ai tourné Pierre Richard.
Et alors Pierre Richard, que vous connaissiez déjà un petit peu, j'ai entendu parler que vous aviez vaguement écrit avec lui un court-métrage.
On avait écrit un court-métrage et on n'a pas... Oui, parce qu'on s'était connu. Je l'ai connu, j'étais caméraman et un jour, c'était un film, une série télé qui s'appelait Agence Intérim. Et je vois un personnage qui passe dans mon image, qui avait des jambes de 3 mètres de long, une démarche aérienne. Bon, on a sympathisé, c'était Pierre Richard. Il avait un petit rôle dans la série, voilà. On a sympathisé, puis on a décidé d'écrire un court-métrage, on l'a écrit, et puis on a essayé de le monter, et on n'y est pas arrivé. Alors je lui ai dit, écoute Pierre, je crois que c'est plus facile de faire un long-métrage. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Lui, il a fait Le Distrait, et moi j'ai fait les Libidas en folie.
Et pour remplacer Brigitte Bardot, donc Jane Birkin.
Jane Birkin, oui.
Qui n'était pas encore une grande célébrité à l'époque.
Non, mais elle avait quelque chose d'une star.
En tout cas, vous l'avez faite star à travers ce film.
Vous y croire, quoi. Je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film. Voilà, mais on peut croire qu'elle est une star anglaise ou américaine.
Et le tournage a été marqué, entre autres, je crois, par un accident qu'elle a eu.
Ah oui, oui. Oui, elle a arraché la porte d'une caravane en montant dans la... Elle jouait à une scène où elle était en colère. Et moi, j'avais la caméra à l'intérieur de la caravane. Elle devait rentrer en colère et je demandais une 7e prise, peut-être la prise de trop. Enfin, c'est presque. Et alors, elle a arraché la porte qui lui est tombée sur l'arcade sourcilière. Et j'ai vu le sang gicler et tomber sur mes chaussures. J'étais au pied de la caméra. J'ai dit, ah! Et elle était ouverte jusqu'à l'os. Frontale, là, vous voyez. Bon, alors. Catastrophe. Bon, direction de la clinique. Et elle a été opérée à Aix-en-Provence. Et on a arrêté 3 semaines. Mais moi, j'ai eu très peur, vraiment. Très peur. Je sais pas. Vous voyez, il y avait le sang et tout. On connaît pas la gravité de la blessure. Oui. Mmh.
Oui. Et donc, elle a remplacé Brigitte Bardot sur ce film, mais vous avez aussi fait un autre film avec elle, avec eux.
On a enchaîné avec La Course à l'échalote l'année d'après, oui.
C'est né d'un désir de comédien, d'un désir de jouer avec ces comédiens-là, ou vous auriez pu le faire avec d'autres?
Ah ben non, c'était un peu le plaisir de jouer avec les deux, oui. Ah oui. Trouver un autre sujet, une autre... Mais de... Oui, c'était intéressant, le couple était fascinant, oui.
Et puis ensuite, il y a eu d'autres grandes célébrités. On pense à Coluche, bien sûr, avec qui vous avez tourné. Inspecteur La Bavure, entre autres.
Mais avant, j'ai tourné...
Et vous avez tourné Banzai également.
Avant, j'ai tourné Les Loups la cuisse.
Comment vous l'avez découvert, Coluche? Je crois que peut-être à travers le café-théâtre.
Oui, oui, oui. Très bon client, je l'ai découvert, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était une pièce qui s'appelait Thérèse et Triste, je crois, au TTX parisien. C'est un petit théâtre dans les sous-sols de l'Olympia. Il y a une rumeur qui courait dans Paris, faut aller voir un mec qui s'appelle Coluche, voilà, qui a une petite troupe là-bas. Effectivement, il avait une troupe et ils étaient 10 sur scène et on était 8 dans la salle. Oui, ça n'a pas du tout marché. Mais il y avait Coluche. Voyez. Alors après, j'étais le voir au rue de Dessalles, où il a café de la gare.
Et
voilà.
Et vous vous êtes tout de suite dit, un jour, il faudra que je tourne avec ce garçon.
J'ai tourné avec lui.
Oui, mais immédiatement, vous vous l'êtes dit. Dès que vous avez...
Oui, ou quand j'ai eu l'occasion, oui.
Ouais.
Parce qu'il fait un petit rôle dans Le Grand Bazar avec les Charlots.
Ah oui, c'est vrai.
Il a 2 jours de tournage. Il fait une visite d'appartement HLM à Meudon. Oui, oui.
Et ensuite, sur L'aile ou la cuisse, donc avec De Funès, dont on parlera aussi, je crois que ça n'a pas été forcément facile d'imposer le
non,
choix.
Non, parce qu'au départ, c'était Pierre Richard qui devait le faire. Et puis, il n'a pas aimé le scénario, et il n'a pas voulu faire le film. Voilà. Donc, il fallait trouver quelqu'un. Mais moi, j'ai proposé Coluche. Fechner était d'accord, mais la Gaumont et Toscan du Plantier, pas du tout. Du coup, il renonçait au projet. Bon, le bas de combat dans le cinéma français, vous voyez, parce que le cinéma français voulait Les Loups la cuisse avec De Funès. Bon, Donc j'ai été convaincre, on m'a demandé d'aller convaincre Toscan du Plantier que l'idée de Coluche était une bonne idée.
Et donc voilà. Vous l'avez convaincu.
Voilà, on a organisé un rendez-vous, et je ne sais pas si je l'ai convaincu, mais enfin, il est sorti là en disant « bon, on fait le film ».
Ça a été une collaboration fructueuse par la suite, vous avez fait plusieurs films avec
oui,
lui, comme on
oui,
s'est
oui.
dit. C'était quel genre d'acteur? On imagine un acteur volatile, mais en fait, il paraît qu'il était très sérieux en tournage.
Très pro, il connaissait son texte parfaitement, il arrivait le matin à l'heure.
Et vous aviez même envie de faire un autre film avec lui?
Oui, j'avais une idée que j'ai trouvé ça dans un journal, le titre, dans un journal. C'était, ça s'appelait Promotion Canapé, c'était sur le harcèlement sexuel dans les PTT à l'époque. Voilà. Du coup, j'avais fait toute une enquête sur, j'avais enquêté auprès des stagiaires, parce que, bon, des jeunes filles stagiaires qui arrivent à Paris, de leur province natale, et qui sont alors logés comme ça des fois dans les hôtels de passe, parce que la moitié de l'hôtel une des jeunes filles que j'ai rencontrées, elle habitait à Pigalle dans l'hôtel où la moitié des chambres étaient réquisitionnées par la poste et le reste des chambres étaient utilisées par des jeunes femmes qui montent souvent quoi. Et voilà, alors pendant un an pendant elles sont stagiaires et à la fin du stage, ils étaient notés par leur directeur du bureau de poste ou la directrice. Voilà. Alors, il peut, dans ces circonstances-là, il peut y avoir, une certaine pression. Voilà. Le sujet, c'était ça.
Et vous vouliez le faire avec Coluche, alors.
Et je vais le faire avec Coluche, qui aurait fait un directeur épouvantable, qui sautait sur tout ce qui bouge en utilisant tous les arguments, les pires arguments pour arriver à ses fins. Oui, un horrible personnage, quoi.
Et finalement, le film s'est fait, mais sans vous et sans Coluche.
Coluche, je me souviens d'un déjeuner avec Claude Berry à Saint-Tropez, après le Festival de Cannes, où on s'était, parce qu'il était fâché avec Berry, je sais plus pour quelle raison. Et là, il s'était réconcilié autour de ce projet. Et on a déjeuné, on a topé, allez, c'est mon prochain film. Quelques jours plus tard, il se plante avec sa moto.
Vous l'aviez pourtant convaincu, et de la même manière que vous avez dû aussi convaincre Louis de Funès, enfin pas le convaincre nécessairement, mais en tout cas rendre possible le projet de film que vous aviez avec lui, parce qu'à l'époque, il avait, je crois, des petits problèmes de santé qui rendaient le projet difficile.
Le projet était difficile par rapport aux assurances, et là je crois que Fechner a bien négocié tout ça. Bon, c'est un film quand même qui... Il y avait 12 semaines de tournage. Finalement, j'ai accepté le fait que j'ai signé même, que j'avais son rôle en 6 semaines. Vous voyez, que s'il y avait un problème après 6 semaines, le film était montable. Bon, De Funès a tourné 12 semaines et le film n'aurait pas été montable. Donc tout le monde a un peu menti pour faire le film, quoi.
Il y a une de ces grandes collaborations qui ont émaillé vos carrières, qui ressort dans votre esprit, dans vos souvenirs. Il y a Depardieu aussi, qui a beaucoup joué pour vous.
J'ai fait plusieurs films avec, oui.
Bien sûr. Et certaines de ces collaborations gardent plus de force à votre esprit?
Peut-être pas. C'est lié un peu au film. Hein. C'est la collaboration, elle se voit à l'écran. Donc finalement, c'est le film qui parle pour moi, là.
Et on parle de grandes stars dans des rôles principaux, mais on remarque aussi, à regarder tous vos films, que même dans les petits rôles ou les plus petits rôles, vous avez toujours pris soin d'avoir des castings de grande qualité, assez prestigieux. C'est important pour vous d'avoir des acteurs 5 étoiles dans tous les rôles?
Ce serait l'idéal. C'est l'idéal, évidemment. Après, c'est une question de budget. Parce qu'effectivement, c'est... Quelquefois, il faudrait un très grand comédien pour dire une réplique. Que cette réplique est importante, mais le personnage n'a que cette réplique à dire. Mais vous ne pouvez pas demander à la production d'engager un comédien à je ne sais pas combien pour dire une réplique. Bon, ça peut se faire, mais c'est rare.
Donc ça change tout d'avoir un grand comédien populaire.
Bah, ça change. Oui, c'est oui. Ça... Le film est. Et ce sont les comédiens que l'on voit. Vous voyez, s'ils sont tous bons, c'est mieux, quoi. Évidemment.
Et en tant que metteur en scène, une question naïve peut-être, mais qu'est-ce que ça change dans votre travail? J'imagine qu'on ne travaille pas face à Louis de Funès comme on travaille avec n'importe quel comédien.
Non, c'est pas. Il y a pas grand-chose à faire, finalement. Il n'y a pas avec des comédiens comme Belmondo, De Funès, Noiret et d'autres. Ils ont lu le scénario. Ils savent ce qu'ils vont faire. Oui. Quand ils arrivent sur le plateau, ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Et souvent, quand on a écrit pour eux, en pensant, ils font ce que vous avez imaginé qu'ils vont faire. Oui. Non, ils ne s'égarent pas, quoi.
Sur un plateau, on ne dirige pas une star.
Non. Je ne suis pas un très grand directeur d'acteurs. C'est pour ça que je préfère avoir des grands comédiens, c'est beaucoup plus facile. Quoi. Voilà. D'ailleurs, on sait très vite, enfin, je veux dire, il suffit d'une lecture avec un comédien, on lit un peu. Bon, ça y est, on se met d'accord très vite sur le personnage. Souvent, il est écrit dans le scénario, il est dans le scénario. Vous voyez, je pense au Ripoux, le personnage de Noiret, il est entièrement dans le scénario. Parce qu'il a été écrit en pensant à Noiret, vous voyez. Donc Noiret s'est glissé très facilement. Quoi.
Vous pensez au comédien pour écrire, et inversement, une fois que vous travaillez avec ce comédien, quelle est la part du travail du comédien dans l'écriture ou la réécriture du film? Est-ce que ces grands comédiens-là ont, avec vous, écrit les films sur le plateau, en direct? Non.
J'ai jamais travaillé sur le plateau. Non, tout est écrit... Jamais. Toutes les répliques sont écrites. Il n'y a pas d'improvisation. Et j'ai le scénario des Bidas en folie qui est là, derrière mon bureau. Il fait 380 pages. Vous voyez?
C'est mot à mot, quasiment.
C'est-à-dire que si vous voulez décrire un gag, il faut le décrire en détail. Avec tout, parce que l'accessoiriste, souvent, doit construire un objet ou un véhicule particulier, etc. Oui. Donc il faut tout raconter avant, quoi, pour donner un maximum d'informations aux décorateurs, à tout ça, à tout le monde.
Et ces grands comédiens qu'on vient rapidement de passer en revue vous ont ancré directement dans la veine d'un grand cinéma populaire. C'était important pour vous d'être dans cette veine-là, de faire du cinéma populaire?
Je crois que j'ai pas eu le choix, quoi. C'était mon cinéma, vous voyez. J'ai écrit mes scénarios, donc c'est. Bon, j'ai pas écrit de drame. J'ai pas eu envie d'écrire des drames, vous voyez, des films sociaux, films engagés. Non, ça. J'avais l'impression que j'étais pas fait pour ça, quoi. Faut pas aller contre sa nature, faut jouer avec soi-même, hein. C'est là où, avec sa vérité, c'est là où on est plus juste, finalement.
Et votre vérité, comme vous dites, votre culture, vos références, vous les avez puisées où? C'était...
Tout le cinéma comique, en général, depuis La Nuit des Temps, depuis Max Sennett jusqu'à Tati, en passant par George Milton, les Trois Stooges, Laurel et Hardy, Jean Richard, Pierre Richard, Darry Cole, il faudrait que je cite tous les comiques que j'ai été voir tout le long de ma vie, quoi. Les comiques Fernandel, les comiques oubliés, surtout quand on est gamin, vous voyez, moi j'allais surtout voir des comédies, ou des westerns, ou des trucs comme ça, mais c'était pour moi, j'évitais les drames, quoi. Donc c'était mes vedettes, c'était les vedettes comiques, quoi.
Et ce cinéma, parfois, vous a valu des critiques un petit peu acerbes de certains qui considéraient ou en tout cas de certains qui préféraient le cinéma qu'on dit d'auteur. Est-ce que d'une certaine manière, en faisant un cinéma que les gens aiment, que les Français aiment. C'était peut-être une façon aussi de faire un pied de nez à cette critique qui vous suivait pas toujours.
Non, je n'ai jamais essayé de faire un pied de nez à quiconque. C'est négatif, si vous voulez. Ça m'a entraîné dans, je sais pas vers où d'ailleurs. Non, j'ai essayé de faire ce que j'avais envie de faire, et de penser au cinéma du samedi soir, qui est mon cinéma traditionnel, si vous voulez, où on faisait la queue pendant 2 heures pour rentrer au Miramar ou ailleurs. Et c'était, on rentrait avec une envie de folle de voir le film. Vous voyez, il y avait un désir de spectateur extraordinaire. Voilà, c'était jamais bien ce cinéma-là. Vous voyez. Ce qui ne m'empêchait pas d'aller voir des films différents, faire ce cinéma, oui, c'est ce que j'avais envie de faire. Oui.
Vous n'avez jamais pris en compte ces critiques acerbes qui parfois vous étaient destinées ?
Comment la prendre en compte ?
Si ce n'est la prendre en compte, en tout cas, est-ce qu'elle vous a affecté ?
Elle m'a affecté dans la mesure où elle n'était pas toujours... C'est-à-dire, souvent, c'est déclenché, non pas par le film lui-même, la critique, mais par les entrées, le fait que le film, voilà, par le succès. Bon, comme ça. Alors, vous sentez que c'est, il y a une forme de, quelle critique vous reproche le succès. Donc, le film suivant, il le démolit, quoi. Voilà. Il y avait un peu cet aspect-là qui est quand même un peu gênant, quoi. Bon. Faudrait pouvoir aller voir les films sans les génériques, quoi. Vous voyez? C'est difficile. Mais il faudrait oublier qu'il y a un metteur en scène. Voilà, ce qu'il a fait avant, voir un film. Il y a des critiques qui l'ont fait. Je me souviens du critique du Figaro, je ne me souviens plus de son nom, qui m'avait démoli. Et pour les Ripoux, par exemple, il a commencé sa critique en première page, à la une, avec apologie de la comédie, quand même, vous voyez. Donc, alors qu'il m'avait démoli jusque-là. Donc il y a des critiques qui sont aussi capables de voir le film en dehors d'oublier le CV du metteur en scène, quoi.
J'ai lu une fois que vous disiez ne pas vouloir faire des films forcément d'une grande esthétique, des grands films prétentieux de réalisateurs, mais surtout des films d'idées d'invention, où l'invention oui. Primait. Vous le confirmeriez aujourd'hui, c'était l'invention, la trouvaille qui vous amusait.
Oui, les situations. Pour moi, le film est fait, il faut faire le film après, évidemment, au tournage, mais il existe déjà dans le scénario. L'essentiel. Et si les idées sont pas très bonnes, si les trouvailles sont pas de très bonnes trouvailles, bon, bien le résultat sera très moyen. Si vous êtes planté à un certain moment, si vous êtes parti dans une direction, ça arrive de partir dans une mauvaise direction, mais de continuer d'aller au bout, bon, voilà.
Et non. Malgré tout, ça vous est arrivé de ne pas toujours rencontrer le succès. On parle beaucoup de vos films qui ont eu énormément de succès, mais il y en a eu quelques-uns, pas beaucoup.
Il y a succès et succès, vous savez. Il y a succès et succès. Mais bon, j'ai fait un film. Bon, on a fait 1,5 million la première semaine. Mais le film, il a terminé à 3. Donc, quelque part, c'est pas un énorme succès. 3 millions, ça a l'air... Non, parce que ça prouve le public n'a pas adoré. Si vous baissez, vous voyez, voilà. Par contre, j'ai fait d'autres films, on a démarré assez bas, et puis on a tenu, et à l'arrivée, on a fait 6 millions d'entrées. Vous voyez?
Lesquels, par exemple, vous pensez à quel film?
Par exemple, Les Ripoux.
Qui n'a pas été un grand succès au départ.
Non. Non, on a fait, je me souviens, on est sorti un mercredi, on a fait 12 000 le mercredi. C'était très moyen. Très moyen.
Et ces échecs ou ces succès en demi-teinte, ils vous ont appris des choses, vous les avez utilisés. Comment on vit à votre endroit un film qui fonctionne?
Non, ça vous apprend une chose, c'est que on se trompe et on le sait pas. Voilà, on croit avoir trouvé des bonnes idées, les avoir bien enchaînées, et puis non, on s'est trompé. Vous voyez, voilà.
Il vous est jamais arrivé de, avant de commencer le tournage d'un film, d'avoir un pressentiment de vous dire, ça va être un succès, ou ça, c'est peut-être moins bien que ce que j'ai pu faire?
Non, on croit tourner un succès.
Toujours.
Toujours.
On parle de ces quelques succès en demi-teinte ou peut-être échecs, mais malgré tout, vous avez toujours fait ce cinéma populaire qui a rencontré du succès avec des gens célèbres, qui rentrent, je trouve, si on va sur un terrain un petit peu plus intime, qui rentrent parfois en contradiction avec la discrétion qui est la vôtre, ce cinéma très expansif et très populaire, alors que vous êtes finalement quelqu'un de excessivement discret, ou en tout cas de très discret.
J'ai un côté clown, mais il est bien caché, quoi. Donc, le cinéma me permet de le sortir, ça. De sortir. Mais dans la vie, je suis couleur muraille, moi.
J'ai entendu dire même que les jours ou les pendant le temps de sortie de vos films, parfois vous fuyez à l'étranger,
Je
vous
suis
allez.
parti, oui, j'ai fait quelques beaux voyages comme ça. Très lointains. Oui.
Pour fuir le succès ou pour fuir l'échec potentiel?
Pour fuir l'angoisse. L'angoisse de la sortie d'un film. C'est épouvantable. D'ailleurs que je suis pas mécontent d'avoir arrêté de faire des films. Je veux bien faire un film, mais je veux pas qu'il sorte. Ce que j'ai dit à un producteur. Il m'a dit, mais non, Claude. Dit, mais non, c'est un moment épouvantable. Non, ça rend malade. Bon. Je préfère arrêter de tourner, mais ne pas être malade. Quoi.
Malade de peur que vous ne rencontriez pas le public.
Même si vous le rencontrez, enfin, je sais pas, c'est tout. Alors, en plus, toute la promotion maintenant, tout, non. Non, je partais. J'ai jamais fait la promotion de mes films parce que je suis pas très bon. Vous voyez, je vends très mal mes films. Donc, je partais. Je voyageais. Écoutez, j'étais en Écosse pour l'aile ou la cuisse. Et j'ai appris les entrées une semaine après. Vous voyez, parce que je téléphonais même pas à Paris. Voilà. Donc je me suis baladé dans le nord de l'Écosse. Une autre fois, j'ai fait le Sahara en voiture. Vous voyez. Et là, il n'y a pas de téléphone, merveilleux. Personne ne peut vous joindre.
Donc finalement, vous n'avez jamais souhaité profiter de ce que vous permettait cette popularité.
C'est quoi que profiter comment?
J'imagine que certains
sortir
en profitaient.
Dans la rue, signer des autographes,
non, mais vous
être
vous
reconnu,
amuser, faire la fête, être quelqu'un de médiatique, être voilà.
Oui, quelqu'un de médiatique. Non, non.
Ça vous a jamais tenté.
Le minimum. Non, non, je suis pas médiatique. Il y en a d'autres. Hein, bon. Non, mais je suis pas. Je me sens pas bien, si vous voulez. Encore bon, une interview comme ça dans mon bureau, on raconte. Bon, ça va, c'est pas désagréable, c'est pas trop trop gênant. Lui. En plus, alors, c'est de la radio, donc on ne me voit pas.
Eh bien, merci, Claude Zidi. Alors,
ok.
Demain, nous
à demain alors.
Exactement,
à demain.
Ensemble, encore de votre cinéma populaire, de vos comédies, mais pas que, parce qu'on verra justement que vous avez aussi fait des films parfois un peu moins comiques. Merci.
Okay.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Christophe Brianchon avec Claude Zidi. À voix nue, réalisation Julie Béressy, prise de son Gilles Gallinaro, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur l'appli Radio France.